8h en temps universel, 10h ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Bonjour à tous. Dans 10 minutes, le début de votre émission Appel sur l'actualité, commentaires, réactions, points de vue. Dans 40 minutes, le débat sera en Côte d'Ivoire. Le PDCI de Tidiane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo ont claqué la porte de la commission électorale indépendante la semaine dernière qu'ils accusent de partialité. Que vous inspire cette décision? On attend vos réactions au standard 33 9 693 693 70. Mais tout de suite, le journal international, et c'est avec Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Namoury, bonjour à tous. La Chine prévient. Elle n'a pas peur d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Pékin réplique à nouveau en gelant toutes les livraisons d'avions Boeing qui comptaient pourtant beaucoup sur le marché chinois. Coup dur pour l'administration Trump qui doit en plus faire face à une plainte commune déposée par des associations environnementales. On vous explique tout dans ce journal. On sera aussi à Londres pour revenir sur ce sommet hier consacré aux 2 années de guerre au Soudan. Les participants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. On va revenir aussi sur ces nouvelles tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Et puis le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions de football malgré sa défaite hier soir face à Aston Villa. Du plomb dans l'aile pour Boeing, et ce plomb s'appelle Pékin. Alors que la guerre commerciale fait rage avec les États-Unis sur fond de droits de douane vertigineux, la Chine annonce des mesures contre le constructeur aéronautique américain pour qui l'atterrissage risque d'être très douloureux. Les détails depuis Washington avec Guillaume Nodin.
L'avionneur américain, plus gros exportateur du pays, n'avait certainement pas besoin de ça. Après des années difficiles marquées par plusieurs accidents et des questions récurrentes sur la place respective de la sécurité et de la rentabilité dans ses priorités, Boeing se retrouve temporairement privé de son plus gros débouché, celui sur lequel il compte pour les années à venir, le marché chinois. Les autorités de Pékin ont demandé aux compagnies du pays de ne plus passer de commandes à Seattle et aussi de mettre en pause toutes les réceptions d'appareils prêts à être livrés. Le message est parfaitement limpide, il s'agit de mettre la pression sur les États-Unis et notamment sur Donald Trump dans la guerre commerciale lancée par le président américain. Celui-ci a annoncé 145% de droits de douane sur les produits chinois et la Chine a répliqué par 125% sur les produits américains. Cela va évidemment renchérir considérablement le prix des avions. Cela montre surtout que la Chine n'entend pas céder ou baisser les yeux dans ce duel de géants. Les États-Unis non plus. La Maison-Blanche se contente de dire sobrement que la balle est dans le camp de Pékin pour entamer des négociations. En attendant, l'action Boeing a perdu 3% hier à Wall Street. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et le ministère chinois des Affaires étrangères prévient, la Chine n'a pas peur d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Le ministère appelle quand même au dialogue. Et Donald Trump ne pourra visiblement pas compter sur le soutien de son prédécesseur, Joe Biden, qui s'est exprimé hier depuis Chicago, première prise de parole publique depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. Il n'a pas mâché ses mots, ça ne fait pas encore 100 jours et cette nouvelle administration a fait tant de dégâts et tant de destruction, a-t-il dénoncé, accusant Trump de vouloir casser et voler les plus pauvres en donnant aux plus riches. Donald Trump et son administration également pointés du doigt par des groupes environnementaux, ils sont plusieurs à s'unir pour poursuivre l'administration en justice. En cause, la suppression des informations publiques sur les sites web d'agences fédérales chargées du climat et de la justice environnementale, des outils pourtant essentiels pour les chercheurs et pour de nombreuses ONG. Les explications de Juliette Pietraszewski.
Avec cette plainte, les organisations environnementales alertent sur la suppression de plusieurs outils de cartographie du climat ou encore de la pollution sur des sites web fédéraux. Ces outils, développés par le gouvernement, permettent de comprendre et d'analyser les conséquences environnementales qui touchent les Américains en général et plus particulièrement les communautés défavorisées des États-Unis. Pour les plaignants, l'objectif de l'administration Trump est clair. Supprimer ces données scientifiques et critiques, c'est une nouvelle attaque directe contre des populations précaires, déjà touchées par la pollution de l'air et de l'eau. Zachary Shelley est avocat et chargé de suivre la plainte des organisations environnementales chez Public Citizen.
Ces informations ne devraient pas être controversées. Ce sont des faits sur le monde, sur la quantité de pollution que vous avez. Ce sont juste des critères objectifs. Certains de ces outils sont là depuis des années, et ce qu'on voit depuis ces derniers mois, c'est surtout une bataille de l'administration Trump contre l'information, contre les données climatiques. Et sans ces informations, vous éloignez la voix des gens et le savoir qu'ils ont.
Et selon cet avocat, priver les citoyens de l'accès à ces informations ne leur permettra plus de plaider en faveur de changements, notamment de mesures politiques.
Juliette Pietraszewski. Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens. C'est le tableau qu'endresse Médecins sans frontières ce matin. Nous assistons en temps réel à la destruction et au déplacement forcé de toute la population, déplore la coordinatrice d'urgence de l'ONG. Et pour elle, la réponse humanitaire est gravement entravée par l'insécurité constante et les pénuries critiques. Hier, le Premier ministre israélien s'est rendu dans la bande de Gaza, dans le nord, à la rencontre de ses soldats déployés là-bas. Nous insistons pour que le Hamas libère nos otages et nous insistons aussi pour atteindre nos objectifs de guerre, a déclaré Benjamin Netanyahou. Le Hamas continuera de subir coup après coup, ont ajouté ses services. Il faut un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel au Soudan. L'appel hier d'une vingtaine de pays et d'institutions internationales depuis Londres, où ils se sont réunis en sommet à l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre civile dans le pays. Elle oppose depuis le 15 avril 2023 l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Emeline Vint, à Londres, les participants au sommet hier ont aussi rappelé la nécessité d'empêcher toute partition du Soudan.
Un chiffre pour résumer la conférence de Londres, plus de 800 millions d'euros. C'est la somme promise par le Royaume-Uni, l'Union européenne et ses membres et les autres participants pour soutenir l'assistance humanitaire au Soudan, principalement par des colis alimentaires et du soutien pour les victimes de violences sexuelles. L'aide financière, c'était le premier objectif de cette réunion internationale, le plus facilement mesurable aussi. Deuxième but, remettre le Soudan dans l'actualité. Le chef de la diplomatie britannique a invité les participants à ne pas se résigner à un conflit inévitable. Et c'était le dernier objectif, faire progresser le processus de paix. Alors personne ne s'attendait à un accord de cessez-le-feu dès ce mardi. D'ailleurs, ni l'État soudanais, ni les paramilitaires des FSR n'étaient représentés. Mais des partenaires de chacune des parties avaient été invités. Par exemple, l'Égypte, le Kenya ou encore les Émirats arabes unis soupçonnés d'armer les FSR. Les partenaires occidentaux devaient saisir l'occasion pour faire preuve de diplomatie patiente, selon la formule du ministre britannique des Affaires étrangères, qui espère que le conflit aura évolué vers la paix d'ici un an. Emeline Van Londres, RFI.
Il nous faudra un jour ou l'autre revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant, déclare ce matin le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. C'était chez nos confrères de France Inter. Hier, Paris a expulsé 12 agents consulaires algériens, une représaille à une mesure similaire prise par l'Algérie. La France annonce aussi rappeler son ambassadeur à Alger pour consultation. En France, toujours ces nouvelles attaques cette nuit contre l'institution pénitentiaire. 3 voitures ont notamment été incendiées sur le parking de la prison de Tarascon dans le sud du pays. Une tentative de déstabilisation, dénonce le ministre de la Justice Gérald Darmanin sur CNews. La veille, déjà plusieurs établissements pénitentiaires avaient été ciblés par des attaques coordonnées. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Qu'est-ce qu'une femme ? C'est une question, c'est à cette question que la Cour suprême britannique va devoir répondre aujourd'hui. C'est une association écossaise qui avait lancé le débat il y a quelques années en estimant que dans la loi, la définition devait se baser sur le sexe biologique et non pas sur le genre. Les associations LGBT craignent que cette définition ne complique la vie des femmes transgenres en leur évitant, en leur empêchant notamment l'accès à certains lieux comme les centres d'hébergement réservés aux femmes. Les mauvais souvenirs de la remontada étaient dans tous les esprits des supporters du Paris Saint-Germain hier soir. Défaite 3-2 sur la pelouse d'Arsenal en quart de finale, d'Aston Villa, pardon, en quart de finale, retour de la Ligue des Champions. Heureusement pour le PSG à l'aller, ce sont les Parisiens qui l'avaient emporté un petit peu plus largement, 3-1. Alors ça suffit pour le Paris Saint-Germain qui file en demi-finale, mais c'est pas passé loin quand même, Cédric d'Oliveira.
Le PSG n'est vraiment pas un club comme les autres. Quelle que soit sa domination, il arrive parfois à se compliquer la tâche tout seul. Achraf Hakimi, pourtant un des buteurs parisiens, n'a pas passé un bon moment à Villa Park.
On savait qu'aujourd'hui c'est un match pour souffrir. On a souffert un petit peu à cause de nous, mais on est content de comment l'équipe a réagi ça. Et on devait continuer et pour gagner cette Champions League, on devait souffrir.
Vainqueur 3-1 au match aller, menant très vite au score 2-0. Et les Parisiens ont ensuite perdu le fil du match, s'inclinant finalement 3-2. Mais pour le Géorgien Kvaratskhelia, il faut se satisfaire de cette qualification.
C'était un match très compliqué, mais le plus important, c'est qu'on soit en demi-finale. On doit juste continuer à se battre et tout ira bien.
Après cette grosse frayeur, les Parisiens atteignent tout de même le dernier carré de la Ligue des Champions pour la 4e fois en 6 ans. Soulagés, ils attendent maintenant le Real Madrid ou Arsenal.
La vérité, on s'en fout. Désolé pour la parole. Pour gagner cette compétition, on devait jouer contre les meilleurs. Les deux sont de grandes équipes et on est prêt pour ça.
Voilà les deux scénarios pour le PSG, une nouvelle escapade anglaise ou des retrouvailles avec Kylian Mbappé. Cédric de Oliveira, Birmingham, RFI.
Et hier soir, Barcelone s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Dortmund. Mais comme pour Paris, le Barça se qualifie pour les demi-finales grâce à son 4-0 du match aller. Ce soir, les deux derniers quarts retour, le Real face à Arsenal et l'Inter Milan face au Bayern Munich. Il est 10h10 à Paris. Namoury Dosso, c'est à vous pour Appel sur l'actualité.
Merci Gaëtan. C'était le Journal International avec Gaëtan Plenier.